Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins, pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique, avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. 12 octobre 2023, publication de l'Inventaire national des forêts, par l'IGN, l'Institut national de l'information géographique. Quels types d'informations sont présentées dans cet inventaire? Comment est-il supposé être utilisé? Quelles tendances des écosystèmes forestiers français semblent émerger pour le bilan de cette année? Comment le dérèglement climatique et les divers changements planétaires semblent influer sur les forêts? Comment le propriétaire de forêt, le gestionnaire de forêt ou l'aménageur de territoire peut-il utiliser ce document? Chaque année, l'Institut national de l'information géographique publie un inventaire national des forêts, et ce, depuis 1958. Cet inventaire se veut décrire et suivre la forêt de manière objective et représentative. Quand je vous parle de forêt, c'est l'ensemble des écosystèmes des forêts, publics et privés. Via cet inventaire, on essaye de mettre en lumière l'état fonctionnel des forêts, la représentation des espèces végétales qui la composent, et bien entendu, la disponibilité de la ressource en bois. Cet inventaire va donc présenter les espèces d'arbres présentes dans les forêts françaises, la quantité de bois mort et de bois prélevé, ainsi que l'état de santé des arbres. Une centaine d'agents techniciens de terrain, photo-interprètes et experts de divers domaines recueillent et traitent les données. Ils font progresser les protocoles pour répondre aux évolutions du contexte environnemental. Il s'appuie sur un ensemble de partenaires dont l'Office national des forêts, l'ONF, le Centre national de la propriété forestière, le CNPF, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, l'INRAE, et les services des mairies. Venons-en maintenant au bilan de cette année 2023. Pour la forêt, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. À 2022 marqué par les grands feux, succède 2023, qui voit se poursuivre les dépérissements d'arbres. Si ce phénomène est moins spectaculaire que les tempêtes hivernales ou les incendies estivaux, il n'en est pas moins inquiétant pour l'avenir de nos forêts. Les résultats publiés cette année sont dans la continuité de ceux des années précédentes. La surface de la forêt continue à augmenter, tout comme le volume total de bois en forêt. Cependant, si la croissance des arbres reste supérieure au volume de bois récolté ou mort, cette croissance ralentit, et avec elle, la capacité de nos forêts à stocker le carbone que nous émettons. En effet, le taux de mortalité des arbres continue de croître. Si bien que comparé à il y a 10 ans, ce taux de mortalité a augmenté de 80%. Promenons-nous dans les bois. Notre vision de la forêt se rapproche plus facilement d'une diversité de couleurs, d'odeurs, de formes et de textures. Maintenant, considérons ceci. La diversité et la composition des peuplements dépendent notamment des conditions climatiques, des sols et de la gestion forestière. Près de la moitié de la forêt française métropolitaine est constituée de peuplements pour lesquels une essence d'arbre occupe plus de 75% du couvert, soit plus de 7 millions d'hectares. Ces peuplements sont appelés monospécifiques, une seule espèce, ou pure. Les plus courants sont ceux de chênes pubescents, de pins maritimes, de chênes sessiles, de chênes pédonculés, ou de hêtres, qui constituent la moitié de la surface des peuplements monospécifiques. Lorsque l'on a dénombré les arbres morts cette année, on a pu comparer ceux déjà morts depuis plus de 5 ans et ceux récemment totem moribond morts. Et surprise, la quantité de bois morts de moins de 5 ans a augmenté de plus de 80% au cours de la dernière décennie et son volume dépasse désormais le volume de bois morts sur pied de plus de 5 ans. Ce qui veut dire les arbres meurent vite et en nombre suffisant pour dépasser ce qui avait trépassé des années auparavant. Moment de plénitude à venir, c'est promis. Après ces quelques chiffres qui semblent passer fantomatiquement dans les débats de notre avenir, dans ce pays et sur cette planète. En quelques millénaires, l'humain a éradiqué les deux tiers des arbres présents sur la surface de cette planète. Pas dans ce pays, pas en France, puisque nous avons gagné 13% de surface forestière en 100 ans. La moitié des arbres plantés pour la compensation carbone sont morts. Petite devinette. D'après vous, est-ce que ces chiffres sont directement liés au dérèglement climatique? Pas forcément. L'exploitation intensive des forêts mêlant glyphosate et destruction d'habitats, ou encore la déforestation pour l'implantation d'infrastructures routières ou ferroviaires, ne dépendent pas du dérèglement climatique et contribuent largement à la diminution de la biodiversité, à l'extinction progressive et engagée du vivant, contribuant ainsi par inadvertance au dérèglement climatique. Il serait difficile de faire autrement si nous n'avions pas la possibilité d'avoir ces connaissances. Ayant ce savoir désormais en votre possession, il est possible de faire autrement. Ce rapport est avant tout une source de pistes pour redéfinir les priorités dans la gestion du territoire. Ainsi, l'Observatoire partenarial des forêts françaises, inauguré le 10 juillet 2023 par les deux ministres, chargés des forêts et chargés de la transition écologique, sera la référence en matière d'information forestière pour les années à venir. À noter que dans ce rapport, on ne fait pas le distinguo entre forêts plantées et forêts spontanées, ce qui suppose que l'influence humaine est un facteur omniprésent dans les deux cas, et que par conséquent, nos interactions avec les systèmes forestiers doivent être mieux appréhendées. Quelques données additionnelles sur la sécheresse et les événements que subissent les forêts demandent à prendre un peu de distance. Allons-y doucement. Il y aurait matière à décrire le phénomène d'assèchement des nappes phréatiques. Il y aurait beaucoup à gagner d'expliquer avec des données le niveau d'érosion, de dégradation des sols qui abritent les forêts. L'invisible est toujours plus compliqué à mettre sur le devant de la scène. Que dire alors des pluies acides qui, contrairement aux films d'épouvante où la peau fond littéralement sous la pluie acide est un phénomène mettant des années avant de provoquer des dégâts physiques visibles. Phénomène biophysique complexe. Simplifions-le de la sorte. Ces pluies vont largement réduire les capacités des forêts à résister aux maladies, champignons et événements climatiques extrêmes. En une décennie, un pan de forêt perd ainsi ses défenses immunitaires pour contrer les menaces extérieures grandissantes. À chaque disparition de ressources, l'humain a toujours migré vers de nouvelles contrées. De même que l'ont pratiqué tous les autres animaux capables de nager, voler ou marcher. Tendons un instant la feuille à ce récit fantastique qui nous susurre une origine possible d'un monde où les possibles sont sans limite. Tahiti surgit des eaux, légende du Pacifique.
Au temps lointain, le peuple de Tiki, du nom de son chef, Tiki, fils du soleil, s'enfuit sur l'océan, dans une nuée de barques fragiles, n'emportant rien qu'un peu d'eau douce et quelques galettes d'avoine. Ce peuple intrépide, à la peau brune, navigua donc sur le vaste océan, droit vers le soleil levant. Il croyait en des dieux puissants. Sa foi le sauva, car il ne fut pas englouti par les monstres marins et les terrifiantes colères de la mer. Mais il s'épuisa à force d'errer désespérément. Un matin, perdu au milieu d'un désert mouvant de vagues lentes, accroupi dans leur barque grinçante, les yeux brûlés, le corps séché par la famine et le vent salé, les hommes abandonnèrent rames et gouvernails, attendant la mort. Le soleil était accablant. Dans la brume lointaine, aucune terre n'était en vue. Alors Tiki se dressa seul, debout à la proue de la première barque, tendit les bras vers le soleil et se mit à hurler une prière sauvage. Il appela au secours les dieux impassibles dans un ciel trop calme. « Donnez une terre à mon peuple, » dit-il. « Arrachez un morceau d'étoile ou soulevez le fond de la mer. Tracez devant nous un rivage. Si vous faites ce miracle, je vous le paierai de ma vie. Je vous offre ma vie pour une terre. » Derrière, au fond des barques, les hommes pleuraient en silence. Les femmes gémissaient, berçant leurs enfants somnolents, accablés par la chaleur et la famine. Mais à peine ces paroles dites, un étrange tonnerre gronde dans les profondeurs de la mer. Les vagues bouillonnent comme une marmite pleine sur un feu d'enfer. Devant le peuple soudain dressé, jaillit, éclaboussant le soleil, une gerbe d'eau, de feu, de roc, de sable. L'océan tremble, les barques s'affolent, prises dans des tourbillons rougissants. Tiki, les bras ouverts, aspergé d'écume brûlante, rit comme un démon splendide. La mer prend feu, un volcan s'élève. Une montagne de lave crache de longues flammes, des fumées et des cailloux dans le ciel rougeoyant. Combien de temps dure ce formidable accouchement d'une île sur l'océan bouleversé? Personne ne le sait. La cendre et la fumée effacent la lumière. Les jours sont rouges comme les nuits. Un matin, enfin, les grondements s'apaisent au fond des eaux. Devant le peuple de Tiki se dresse une terre nouvelle. Sur cette terre, Tiki pose le premier, le pied. Les barques sont tirées sur une plage noire, chaude, fumante. Au centre de l'île, le volcan crache encore sa salive rouge. Alors Tiki, le fils du soleil, s'habille de vêtements multicolores. Puis il dit adieu à son peuple et part seul dans la montagne. Il disparaît lentement en chantant des chants guerriers. Et parvenu au bord du cratère, il salue le ciel, la mer et les dieux et bondit dans la fournaise. Et alors le feu s'éteint. Dans un dernier rugissement, le cratère du volcan se referme. De lourds nuages roulent contre ses flancs rocheux et la pluie tombe, bienfaisante et tiède. Le peuple de Tiki la boit avec délice, la bouche ouverte vers le ciel. Et ainsi fut créé Tahiti. C'est ce qu'affirment les Maoris, fils des Tiki. Leur parole a créé le monde.
S'ouvrir vers d'autres horizons est chose facile pour celle ou celui qui ne sait plus où aller. Donner matière à réfléchir et à s'élever est la fonction motrice de bien des artistes. Une compagnie de théâtre, le théâtre des sept lieux, a monté un spectacle perché dans les arbres. À la croisée de plusieurs disciplines, ce spectacle vivant, mêlant le théâtre, la danse, la musique et la création sonore, le chant, le vidéo mapping et la grimpe d'arbres. Installé au pied de l'arbre, dans des transats ou confortablement allongé sur le sol, le nez en l'air, les spectateurs regardent et s'émerveillent devant l'arbre qu'ils ont toujours eu l'habitude de côtoyer dans leur village ou leur ville. Le temps d'une soirée, L'arbre, immense et immobile, devient le cœur et le personnage principal d'un conte entre rêve et réalité. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, retournons en sortie de champ pour nous nourrir du vivant. Direction le Rajasthan.
Des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.